Bienvenue dans notre émission réalisée dans le cadre du projet Onde d'intégration, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. En ce mois de juillet, nous travaillons sur l'éducation. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Dorillac, professeur et créateur de l'Université populaire des Hautes-Garonne. Il revient sur le système éducatif français.
Moi, je vais vous parler du système éducatif français qu'on va pouvoir comparer à ça. C'était pour vous expliquer comment le système français s'est fabriqué. Parce que nous n'avons pas toujours eu une école qui est gratuite, une école où tout le monde peut venir étudier. Pendant des siècles, les Français n'ont pas étudié. Il n'y avait que les riches qui pouvaient étudier et le peuple français n'étudiait rien. Et en fait, cela fait seulement 200 ans. Vous avez peut-être entendu parler de la Révolution française. Eh bien, c'est au moment de la Révolution française que l'on commence à s'intéresser à l'école pour tous. Et c'est seulement 100 ans plus tard, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, en 1881, que l'école va être pour tous. Donc vous voyez, 1881, ça fait 130 ans. Il y a seulement 130 ans qu'en France, il y a une école gratuite pour tous. Avant, seulement les gens qui avaient de l'argent et le pouvoir. Donc, l'école, je vais vous présenter comment cette école est organisée. Le ministre français qui a créé l'école libre, gratuite et laïque. Alors, l'école en France, elle a une particularité. Ce n'est pas une école religieuse. Et on n'y parle pas de religion. Chacun vient avec sa religion, mais c'est une affaire personnelle. Donc l'école, elle est gratuite, elle est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, et elle est laïque. Ce mot est important, laïque, parce qu'en France, c'est le fondement. Donc voilà, Jules Ferry est le ministre qui a donné son nom à cette école. Vous avez beaucoup d'écoles, j'ai pris une photo d'école. Il y a des rues Jules Ferry partout en France, il y a des écoles Jules Ferry. Voilà, donc c'est 1881, la naissance de l'école qu'on appelle l'éducation nationale. Autrefois, ça s'appelait l'instruction publique. Donc, ce n'est pas très ancien. Et ce système qui a été créé par Jules Ferry, au départ, c'était un système qui donnait une éducation primaire. C'est-à-dire qu'on appelle aussi, peut-être vous connaissez sous un autre nom, on appelle ça une éducation élémentaire. Élémentaire, ça veut dire qu'on apprend à lire, à écrire et à compter. D'accord ? Bon, tous les jeunes Français devait apprendre à lire, écrire et compter. Mais après, on s'est rendu compte qu'on pouvait étudier plus. Et donc, on a construit un système avec des étages différents. Un système complet qui va du très jeune enfant au jeune adulte. Bon, en France, on prend les enfants à l'école à partir de 2 ans. 2 ans, on accepte les enfants dans l'école des tout-petits. Et l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. 16 ans. En fait, donc, de 2 ans à 16 ans, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, il est à l'école. Donc, c'est un système qui suit toute la façon dont l'enfant grandit. Alors, on va regarder la scolarité obligatoire. Vous avez donc 3 niveaux qui sont obligatoires. Le premier, c'est l'école maternelle. Alors, l'école maternelle, en principe, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si des parents ne mettent pas les enfants à l'école maternelle, ils ont le droit. Ils peuvent mettre leurs enfants plus tard. L'école, elle est officiellement obligatoire à partir de 6 ans. Donc, vous voyez, la première case, école maternelle, de 3 à 5 ans, si on veut. En France, on dit facultatif. Bon, en réalité, pratiquement tous les enfants vont à l'école maternelle. La raison est très simple, c'est que dans cette école maternelle, il y a petite section, moyenne section, grande section, et bien maintenant, depuis quelques années, les enfants qui sont à la maternelle commencent à apprendre à lire et à écrire déjà dans la moyenne section et dans la grande section. Donc l'enfant qui ne va pas à l'école quand il est petit, et bien il va lui manquer ses apprentissages et il sera en retard par rapport aux autres. À 6 ans, on rentre dans l'école primaire. Là, c'est obligatoire. Si les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école, ils ont des ennuis avec la justice. Donc, école obligatoire, école gratuite et école qui accueille tous les enfants. Les enfants des Français, les enfants des étrangers et les enfants des clandestins, des sans-papiers. L'école, elle accueille tout le monde parce que c'est l'école de la République. Après, on fait des ennuis souvent aux parents, mais tous les enfants doivent aller à l'école. Et c'est gratuit pour tous. Et un instituteur ou un professeur, il n'a pas à chercher à savoir si l'élève il a des papiers ou s'il n'a pas de papiers. Ce n'est pas notre problème. Hein. Bon. Donc, à l'école primaire, il y a 5 classes. Alors souvent, on retrouve dans les pays d'Afrique francophones, on retrouve le même système. Hein. Bon, avec le cours préparatoire, etc. Bon. Et plus on monte dans l'école primaire, plus on apprend des choses compliquées, notamment dans la langue française. Qui est difficile. Donc c'est une langue où petit à petit on apprend au fur et à mesure des années. Quand l'enfant arrive à 10 ou 11 ans, à ce moment-là, il va au collège. Alors le collège, c'est l'école, déjà, on n'est plus dans l'élémentaire, on n'est plus dans le primaire, on est dans le secondaire. D'accord ? Le secondaire, donc, il a 4 niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e. En fait, ça compte à l'envers, c'est compté par rapport au baccalauréat. Donc 6, 5, 4, 3, 2... Hein, c'est comme le départ d'une fusée, hein, c'est à l'envers. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Alors, au collège, il y a, normalement, c'est le même collège pour tous les élèves. Ça s'appelle le collège pour tous en France. Pour l'instant, ça fonctionne encore comme ça. Ce collège, donc, il doit amener les enfants jusqu'à la fin de l'école obligatoire. C'est-à-dire que l'enfant qui suit normalement, il arrive en troisième et il passe un diplôme, le dernier diplôme, qui est marqué brevet des collèges. Il passe un diplôme à la fin de son collège. Et ce diplôme, c'est le premier diplôme qui permet ensuite de passer certains concours, d'obtenir certains travaux, certains emplois. Bon, beaucoup d'enfants ont ce brevet des collèges. La dernière version, là, je crois que c'était 86%. Vous voyez, donc 86% des élèves qui sont au collège ont le diplôme. Donc, ils sortent avec le diplôme. Alors, au collège... Il y a 2 cas particuliers. Il y a des classes pour les élèves qui ont des difficultés à apprendre la théorie. Bon, c'est-à-dire qui ont des difficultés à apprendre l'anglais, à apprendre les mathématiques, la physique, toutes les matières difficiles. À partir de la 4e, il y a des classes qui sont des classes qui vont amener vers des formations de métier, des formations professionnelles. Ça s'appelle la 4e technologique. Mais il y en a très peu. Il y en a peu. On n'en a pas fait beaucoup en France. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui voudraient y aller, qui ne peuvent pas y aller, malheureusement. Et puis, il y a dans certains collèges des sections pour les enfants qui sont vraiment, les jeunes qui sont en difficulté. En difficulté, soit intellectuelle, c'est-à-dire des jeunes qui ont un handicap intellectuel. Bon, vous avez des jeunes qui n'arrivent pas à apprendre bien à lire, qui n'arrivent pas à apprendre à bien compter. Alors, ils ont des sections où on leur fait faire du travail intellectuel, mais plus bas que le niveau des élèves du collège, et où on leur fait faire des stages dans des entreprises. Et en fait, ils vont apprendre un métier. Ensuite, ils vont apprendre un métier manuel, un métier simple, où il n'y a pas besoin d'écrire. Bon. Ça s'appelle les SECPA. C'est des sections d'éducation spécialisées, et c'est en fait pré-professionnel. Mais là aussi, il n'y en a pas dans tous les collèges, hein, et c'est relativement limité. Donc, ces deux voies, elles permettent à des élèves d'aller vers des métiers, mais ce sont des élèves qui sont en difficulté. Et donc, ils vont apprendre les métiers, ils n'ont pas à avoir beaucoup de choix. Ils vont apprendre les métiers les moins intéressants. Les moins intéressants parce que ceux qui demanderont de la force, qui demanderont moins de réflexion. Voilà, c'est comme ça. Alors là, vous avez le système complet, d'accord ? Donc, on part en bas. À la fin de l'école obligatoire, diplôme national du brevet. Ensuite, plusieurs possibilités. Il y a des élèves qui arrêtent d'aller à l'école à 16 ans parce qu'ils n'aiment pas l'école, ils ne veulent pas continuer à étudier. Soit ils ont des mauvais résultats, soit ils n'ont plus envie. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ils ne sont plus dans le système scolaire et ils essaient de trouver du boulot. Ce qui n'est pas du tout facile aujourd'hui. Ensuite, vous avez les 3 possibilités. La première, ça va être justement l'enseignement professionnel. Alors, professionnel, ça veut dire qu'on apprend un métier manuel ou intellectuel, mais un métier qui va avoir un nom précis. Vous êtes électricien, vous êtes mécanicien, vous êtes programmeur informatique. Bon, un métier. Et ce métier, vous le préparez donc en 3 ans. 3 ans pour arriver à un baccalauréat, au bac professionnel. Bon, ce bac professionnel, quand vous avez ce bac professionnel, vous pouvez déjà trouver un emploi. C'est un diplôme de formation. Deuxième possibilité, on va tout droit. On va tout droit. Alors là, c'est ce qu'on appelle la technologie. La technologie, c'est quelque chose qui est mixte, mélangé. Vous faites de la théorie, de l'enseignement général, comme les autres élèves, c'est-à-dire de l'anglais, de la physique, des mathématiques, bon, etc. Mais vous avez, chaque semaine, les élèves ont des heures d'atelier où ils vont travailler sur des machines, travailler avec des professeurs de professionnels, et ils vont apprendre donc les bases d'une certaine technique. Alors, ça va être électromécanique, électrotechnique, chimie. Alors, nous avons les métiers du livre, etc. Donc, on fait de la technologie. Alors, le but, là, c'est quand vous avez le baccalauréat, donc vous arrivez au bout, vous avez un bac. Mais, normalement, il faut continuer encore. Parce que ce bac, il ne vous donne pas un métier. Il vous donne des connaissances, mais vous n'avez pas un métier. Donc, après, il faut continuer. Au-dessus, vous avez des formations professionnelles courtes en 2 ans ou 3 ans. Donc, bac plus 2 ou bac plus 3. Et là, vous sortez avec un diplôme supérieur. Vous êtes technicien supérieur. Ou vous avez un diplôme universitaire de technologie, c'est-à-dire des diplômes. Et là, vous trouvez un travail. C'est-à-dire que celui qui a le diplôme à bac plus 2, normalement, il a un salaire supérieur à celui qui est là parce qu'il a une qualification supérieure. Bon, ça, c'est la théorie. Hein. En pratique, ça peut changer. Alors, il reste une troisième voie. La troisième voie, c'est ce qu'on appelle l'enseignement général. L'enseignement général, c'est en fait purement de la théorie. On ne fait pas de professionnel. On ne fait pas d'atelier, on ne fait que réfléchir sur des idées. Donc, vous sortez avec un baccalauréat, mais ce baccalauréat, il ne vous a pas appris un métier. Vous ne pouvez trouver aucun emploi avec ce baccalauréat. Donc, il faut poursuivre, obligatoirement poursuivre, pour avoir un métier. Sinon, eh bien, vous êtes sur le marché du travail, mais sans qualification. Et là, eh bien là, on rentre dans le système de l'université. L'université, donc, c'est très long. Hein. Vous avez un système, il y a 3 lettres. L, M, D. La licence, 3 ans. Le master, 2 ans de plus. Bac plus 5. Le doctorat, 3 ans de plus. 8 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle les études longues. Ces études longues, elles donnent une très solide formation, mais elle ne donne pas un métier. C'est-à-dire que quand on a bac plus 8 avec un doctorat, on n'a pas de métier. Il faut ensuite trouver un métier, apprendre ce métier en faisant une formation supplémentaire ou en rentrant dans une entreprise. Bon, donc c'est pas une formation qui vous donne un métier. Ça vous donne des connaissances. Vous pouvez trouver un emploi, mais ça va être des emplois plus difficiles, évidemment, et moins nombreux. Donc, l'avantage de ce système, c'est que, en théorie, normalement, tous les élèves, tous les jeunes, devraient pouvoir trouver ce qui leur plaît. Celui qui veut un métier manuel, il fait professionnel, et il a un métier au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'il a un métier à 18 ans, 19 ans, hein, avec un brevet, un bac professionnel. Celui qui veut aller plus loin avec un bac technologique pour être technicien supérieur, eh bien, il va faire 2 ans de plus. Donc, son métier, eh bien, il l'aura à 20 ans, 21 ans, à peu près, 22 ans. Hein. Et puis, celui qui veut faire des études très longues, ça va l'amener à 30 ans, pratiquement, avant d'avoir un métier. Donc, je vais traduire très simplement. Seuls les gens, beaucoup de gens qui font ces études sont des gens dont la famille a de l'argent. Et c'est normal. Hein, vous ne pouvez pas pendant 8 ans. Donc c'est très difficile pour des gens qui ont des petites ressources de faire ces études-là, parce qu'il faut souvent qu'ils fassent un travail avec les études. Et c'est beaucoup plus difficile. Très difficile. Bon. Voilà, moi j'ai fait le circuit complet, là, comme ça, avec mon métier. C'est-à-dire que j'ai fait toutes ces études, je travaillais la journée, j'étais instituteur à l'école élémentaire, et puis j'étudiais le soir, chez moi, tout seul. Je peux vous dire que c'est très, très dur. Très dur. Donc c'est très difficile, et effectivement, là, il n'y a pas égalité entre les personnes. Il y en a pour lesquels c'est plus facile, parce qu'ils ont l'argent pour faire les études, ils ont les parents qui peuvent payer, il y en a qui ne peuvent pas. Bon, c'est comme ça. Hein. En France, l'école dont je viens de vous parler, c'est une école gratuite. Mais, je l'ai dit, c'est une école laïque. C'est-à-dire que c'est l'école de la République, on ne parle pas ni de l'islam, ni du bouddhisme, ni du judaïsme, ni du christianisme, c'est une école neutre. Il y a des gens qui veulent que leurs enfants aient une éducation religieuse. Ça a toujours existé. Donc, il y a en France deux systèmes parallèles. Alors, l'école qu'on vient de voir, on l'appelle l'école publique. C'est l'école offerte à tous. Il y en a partout, personne n'est refusé. Ensuite, il y a des écoles privées. Bon, la plupart étaient ou sont religieuses. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut monter une école privée, laïque aussi, hein, il y en a beaucoup. Deux possibilités. Soit un enseignement, comme c'est le cas ici, sous contrat. Alors, ça veut dire que l'école privée, elle signe un contrat avec l'État. Donc il y a un contrat, il y a un papier établi qui dit que l'école privée s'engage à respecter les programmes, c'est-à-dire qu'elle enseigne la même chose que dans les écoles laïques, et à avoir des professeurs qui sont des professeurs formés comme les professeurs de l'école publique. Ça s'appelle l'école sous contrat. Quand une école a un contrat, ses professeurs sont payés par l'État français. Même s'ils travaillent dans une école privée, ils sont payés par l'État français. Donc ce n'est pas l'école qui paye les professeurs. Hein. Par contre, les familles qui mettent leurs enfants à l'école, elles payent quelque chose. Parce que cette école n'est pas gratuite. Donc elles vont payer. Mais elles ne vont pas payer les professeurs, ça serait beaucoup trop cher. Elles vont payer uniquement pour l'entretien des bâtiments, pour le personnel qui fait le ménage, pour etc. Mais pas les professeurs. Et puis alors, il y a le deuxième cas qui est hors contrat. Il n'y a pas de contrat. Hein. Bon, moi, si je veux demain monter une école privée, je monte une école privée, je n'ai pas besoin de passer de contrat. Par contre, si je ne passe pas de contrat, je peux enseigner ce que je veux. Je ne suis pas obligé de faire les programmes de l'école publique. Mais par contre, les professeurs, je dois les payer. Donc, les écoles hors contrat, il y en a beaucoup moins que les écoles sous contrat, parce que c'est beaucoup plus cher. Et en général, les écoles qui sont hors contrat sont de mauvaises écoles. C'est-à-dire ce sont des écoles qui sont faites pour essayer de récupérer les élèves qui ne sont pas capables de suivre dans les bonnes écoles publiques. Donc c'est les écoles hors contrat, c'est mauvais, mais c'est très cher. Bon, c'est comme ça. Hein. Personne n'est obligé d'y aller. Donc, je résume. Un étudiant sérieux en France peut se former à toutes les disciplines dans le système public. Il n'y a absolument pas besoin d'aller dans une école privée en France pour se former. Et tout l'enseignement public, y compris l'université, c'est gratuit. À l'université, on ne paye que les droits d'inscription. La somme que vous payez, c'est l'inscription, mais l'enseignement est totalement gratuit. Par contre, celui qui ne veut pas aller à l'université, mais qui veut aller dans une école privée supérieure, chaque année, il devra payer entre 5 000 et 10 000 euros par année. C'est très cher, hein. 5 à 10 000 euros. Donc c'est très cher et ce n'est pas forcément meilleur qu'à l'université. Et je peux vous dire que c'est même souvent bien plus mauvais. Mais les gens qui ont de l'argent, ils ont l'impression, quand ils payent très cher, ils ont l'impression que c'est bon. Alors moi, je suis un pur produit de l'université. On sait que l'université est excellente. Il suffit de travailler. Donc un étudiant français ou étranger, je dis français ou étranger, c'est pareil, hein, qui vient en France ou qui vit en France et qui veut étudier, je ne parle pas du problème des papiers parce que ça, malheureusement, c'est un autre problème, mais s'il veut étudier, s'il fait le travail qu'il faut, il peut avoir une formation de très haut niveau dans l'enseignement public qui est gratuite. Et il faut se battre pour que ça continue. parce que évidemment, hein, c'est pas partout, c'est pas dans tous les pays comme ça. Hein. Alors, je l'ai pas dit, mais pour aider les élèves qui sont de milieux pauvres ou modestes, qui n'ont pas beaucoup d'argent, il existe un système d'une aide qu'on appelle les bourses. On donne de l'argent, mais c'est pas beaucoup. Mais l'État donne de l'argent. Alors, c'est à peu près une bourse maximale, je crois que c'est 400 euros par mois. Ça permet à un étudiant, s'il travaille un tout petit peu à côté, ça lui permet de payer ses études. Donc, ce système permet à des élèves qui sont de bons élèves, mais qui n'ont pas d'argent, de faire des études à l'université. Mais les bourses sont un peu faibles. Hein, en fait, il faudrait donner, pour que ça marche bien, il faudrait avoir 800 euros. Et là, elles sont à 450. Donc, ça ne permet pas de vivre. Hein. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Là, on va parler de la formation professionnelle et de la formation permanente. Le parent pauvre du système éducatif. Ça veut dire qu'en France, on a mis très longtemps à développer un système de formation professionnelle parce que ça n'intéressait pas l'État de former les métiers. Il laissait ça, les gens se débrouillaient pour apprendre les métiers tout seuls. Et donc, on a pris beaucoup de retard et on a eu beaucoup de mal à combler ce retard. Donc aujourd'hui encore, c'est pas les universités sont beaucoup mieux traitées que l'enseignement professionnel. C'est clair. Hein. Cependant, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Hein. On va parler de la distinction formation continue, formation initiale. En fait, on avait avant trois diplômes. Un qui s'appelle CAP, l'autre qui s'appelle BEP, l'autre qui s'appelle baccalauréat professionnel. Alors, ces trois diplômes, ils étaient classés comme ça. CAP en bas, BEP en haut et bac professionnel encore au-dessus. CAP, ça veut dire certificat d'aptitude professionnelle. C'est le premier diplôme qu'on passait quand on avait appris un métier, qu'on maîtrisait le métier, les rudiments du métier, les bases du métier, on passait le CAP. Le brevet d'enseignement professionnel, brevet professionnel, ça voulait dire qu'on était plus formé. Ces deux diplômes, ils sont en train d'être supprimés en France pour être remplacés tous par le baccalauréat professionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est que maintenant, un jeune qui veut apprendre un métier, il va dans un lycée professionnel et là, il fait 3 ans de formation et à la fin de ces 3 ans, il passe le baccalauréat professionnel. Et il n'y a plus le CAP, il n'y a plus le BEP parce qu'on considère que s'il a le baccalauréat professionnel, ça veut dire qu'il a le CAP et qu'il a le BEP. Donc on les a supprimés parce qu'ils étaient inférieurs. Alors, c'est très joli sur le papier. En réalité, ça ne marche pas toujours comme ça parce qu'il y avait des élèves qui pouvaient avoir le CAP, mais qui n'étaient pas capables d'avoir le bac professionnel. Donc on a des gens qui font les études professionnelles, mais ils n'ont pas le bac professionnel. Et dans ce cas-là, ils n'ont aucun autre diplôme. Ils se retrouvent sans le CAP et sans le brevet. Et donc, eh bien, ils arrivent chez un patron, ils disent « Voilà, j'ai fait 3 ans d'études en électricité, par exemple. » Et le patron, il dit « Quel diplôme ?» Mais il dit « J'en ai pas. » Donc c'est un peu embêtant, je pense que c'est une erreur d'avoir supprimé ces deux diplômes. Je pense qu'il fallait les faire passer au cours de la formation. Alors, ce n'est pas encore définitivement effacé, hein, c'est une période de transition, mais bon. L'idée, c'est d'avoir un baccalauréat parce que tous les pays modernes, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, tout ça, ils ont tous maintenant supprimé les niveaux inférieurs, ils n'ont que des baccalauréats. Donc c'était pour avoir les mêmes diplômes. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Il valait mieux garder les diplômes inférieurs, ça permettait à tout le monde d'avoir un diplôme. Alors, ce que vous voyez là, ça s'appelle la formation initiale. Initiale, ça veut dire la formation du début de la vie. En France, tout jeune a droit à une formation initiale, à condition qu'il ne quitte pas l'école. Évidemment, s'il s'en va de l'école, il n'a pas de formation initiale. Donc la formation initiale, c'est celle que reçoit tout jeune français ou étranger qui est dans une école en France. Cette formation, elle vous donne un métier ou un diplôme. Mais aujourd'hui, le monde va très vite. La technique va très vite. Vous avez vu les téléphones portables, vous avez vu les ordinateurs, vous avez vu les voitures. Aujourd'hui, on ne répare plus une voiture comme on réparait une voiture ou comme on répare encore les vieilles 504 en Afrique. En France, c'est fini. Toutes les voitures, maintenant, elles ont la boîte électronique avec le diagnostic. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va sortir de l'école avec un diplôme de formation initiale, dans sa vie, il va devoir plusieurs fois faire des formations qu'on appelle des formations continues ou permanentes. Donc la formation initiale, c'est la formation du début de sa vie. Et après, dans la vie, on a des formations continues ou permanentes pour se maintenir dans la nouveauté. Parce qu'aujourd'hui, un mécanicien qui a mon âge, s'il ne fait pas de formation permanente, il ne sait pas réparer les voitures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, même les tracteurs agricoles sont électroniques. Donc, on est obligé de faire des formations. Donc, formation initiale, c'est le début. Formation continue tout au long de la vie. Alors, en France, on a créé un droit à la formation permanente. Parce qu'au départ, le garçon qui allait à l'école, il y a 100 ans, un garçon qui allait à l'école, il apprenait un métier. Voilà. L'histoire du droit à la formation. Aujourd'hui, en 1981, création d'un ministère de la formation. C'est la première fois qu'il y a un ministère, avec un ministre, qui est chargé de s'occuper de la formation continue, permanente. C'était seulement il y a 30 ans, il n'y a pas très longtemps. Et à partir de cette date, eh bien, tout un tas de dates où le droit à la formation va devenir un droit obligatoire, un droit légal. La loi du 31 décembre 1991 incorpore au Code du travail le droit à la formation des titulaires de contrats à durée déterminée. Autrement dit, quelqu'un qui est embauché quelque part, qui a un CDD, qui a un contrat de travail, il a le droit à la formation. Et il faut qu'il sache qu'il a le droit à la formation. Alors après, hein, c'est... Alors pourquoi une loi pour la formation ? Parce que si on ne faisait pas de loi, la plupart des employeurs, la plupart des patrons, ils ne forment pas leurs ouvriers. Ils prennent des ouvriers avec le diplôme, et puis quand l'ouvrier il est dépassé, qu'il n'arrive plus à faire le boulot, on le renvoie et on prend un plus jeune qui connaît les nouvelles machines. Eh bien ça, pour éviter ça, on forme les gens. École obligatoire, jusqu'à 16 ans. Après, vie active. Mais dans la vie active, quelquefois, on a des soucis. Chômage. Formation. Parce que quelquefois, on est au chômage parce qu'on ne connaît plus les nouvelles techniques. Et à la fin de sa vie active, on arrive à la retraite. Bon. Alors, l'éducation assure la formation initiale. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, on vient de voir. Hein, vous avez une formation quand vous êtes jeune. Éducation, formation initiale. Et puis, la formation, eh bien, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Vous avez quelque chose qui s'appelle la formation professionnelle tout au long de la vie. Bon, donc le système français, il a ces deux choses. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas fait d'études initiales, vous n'avez pas fait d'études parce que, vous n'aviez pas envie d'étudier, il y a des jeunes qui n'ont pas envie d'étudier, la question c'est comment je peux faire pour rattraper ça ? Eh bien, soit, si vous êtes très jeune, vous pouvez reprendre des études dans un établissement après avoir passé un entretien, expliqué ce que vous voulez faire, etc. Bon, vous pouvez reprendre des études. Soit, si vous êtes un peu plus vieux, vous trouvez un travail et ce travail va vous permettre d'avoir un droit à la formation. Et donc, avec ce travail, eh bien, vous pouvez demander une formation. Alors, les formations, elles sont données par période de formation. Vous pouvez avoir une semaine de formation, deux semaines de formation. Et petit à petit, mais vous pouvez apprendre les bases du métier que vous êtes en train de pratiquer. Il faut savoir que si vous travaillez quelques années, vous avez ensuite le droit d'avoir de la formation sur une année complète. Donc là, vous pouvez passer un diplôme. Vous pouvez avoir une... Donc on peut reprendre à tous les moments. Il y a des dispositifs de formation qui vous permettent de reprendre à 18 ans, de reprendre à 25 ans, mais de reprendre aussi à 40 ans pour reprendre un autre métier. La semaine dernière, chez moi, j'avais deux jeunes ouvriers qui avaient 27 ans, qui étaient carreleurs. Ils sont venus me faire du carrelage. J'ai discuté avec eux, et ils m'ont dit, nous, on n'était pas carreleurs avant. On n'était pas carreleurs, on avait trouvé des boulots qui ne nous plaisaient pas, on a fait une formation de carreleurs, ça nous plaît, et maintenant ils sont carreleurs, et ce sont de bons carreleurs. Mais ils ont appris le métier à 25 ans. Donc, en formation permanente et continue. Donc, la formation professionnelle tout au long de la vie, c'est un droit qu'il faut que vous fassiez valoir. Alors, en France, on a un enseignement agricole très professionnel qui donne des diplômes agricoles. Et je peux vous dire quelque chose. Cette année-là, en France, il y a au moins 25 000 emplois agricoles offerts. Et ces emplois agricoles ne trouvent pas de travailleurs parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont formés. Donc, vous pouvez apprendre un métier agricole parce qu'il y a des formations agricoles qui sont souvent rémunérées, prises en charge. Et vous pouvez. Et là, les formations agricoles, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études avant. C'est-à-dire, tu peux apprendre au fur et à mesure, tu vois, et rapprendre. Donc, renseignez-vous sur les formations agricoles, parce que les gens ne se sont pas occupés de l'agriculture. Ils ont tous fait des études théoriques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture et personne pour prendre les emplois. Donc ça, ça peut être intéressant parce que moi, j'ai une maison dans une région très agricole, dans le Limousin, à 300 km de là. C'est une région où les agriculteurs, les paysans sont vieux. Ils ont des fermes. Personne ne reprend les fermes derrière parce que les jeunes ne sont pas formés. Parce que... Donc pensez, si vous voulez trouver un travail et avoir une formation, l'agriculture offre des formations et vous pouvez même être payé pour faire ces formations. Donc ça, mais il faut se renseigner auprès du ministère, enfin à Bordeaux, auprès de la direction de l'agriculture. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Hein. C'est important parce que là, il y a du travail. Donc voilà. Mais, et puis par contre, il faut aimer travailler dehors, quoi. Hein, on travaille dans la nature, on travaille, bon voilà. Donc il y a du travail dans la mécanique, il y a du travail dans l'agriculture elle-même, il y a du travail dans l'élevage, et bon voilà. Il y a du travail, il y a des emplois, il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture. Et les gens ne le savent pas. C'est un secteur où ils n'arrivent pas chaque année à pourvoir les emplois. On ne peut pas faire plusieurs formations en même temps. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir avant. Ce qui est intéressant, avant de choisir une formation, peut-être, c'est d'aller faire un stage pour voir d'abord le travail. Par exemple, je parle de l'agriculture parce que j'enseigne à des gens qui travaillent dans l'agriculture, moi. L'agriculture, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est le travail de l'agriculture. Donc, aller passer 3 ou 4 jours ou 8 jours dans une exploitation agricole pour voir ce que c'est que le travail, et là, ben, vous pouvez découvrir un métier qui vous plaît. Bon, parce que travailler au grand air, par exemple, bon, voilà, sans avoir un patron derrière le dos constamment, ben, c'est bien. Donc, moi, je vous donne un conseil. Avant de choisir une formation, essayez d'aller faire un stage gratuit d'observation, une semaine, pour voir ce que ça donne. Et vous voyez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Il faut aller observer. En France, tout est administratif. Tout est réglementé avec des papiers. Donc, pour avoir une bonne idée, il faut aller voir. C'est le mieux pour ne pas faire d'erreur. Parce que si tu fais une formation pendant 3 mois ou 6 mois ou 1 an, et puis ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais ? Le métier ne te plaît pas. Ben, tu ne vas pas travailler toute ta vie dans un métier qui ne te plaît pas. Il faut au moins avoir de l'intérêt. Alors, quelque chose qui est très intéressant pour et peut-être pour d'autres. Pour ceux qui n'ont pas fait d'études avant, d'accord ? Donc qui ont des difficultés à écrire ou à lire, ou etc. Bon, surtout en français. Vous pouvez, avec un système donc qui s'appelle l'apprentissage. Alors, ce système de l'apprentissage, c'est le plus vieux système de formation du monde. Eh bien, en France, tu peux apprendre et tu as 3 années. Alors, la seule difficulté, c'est qu'il faut que tu trouves le métier que tu veux apprendre. Et après, il faut que tu trouves un patron qui accepte de te prendre en apprenti. Si le patron accepte de te prendre en apprenti, tu fais un contrat, tu signes un papier et tu es apprenti pendant 3 ans. En France, c'est 3 ans. Hein. Bon. Pendant 3 ans, selon l'âge, si tu as moins de 18 ans, tu as des pourcentages ici. 33%, 43%, 55%. C'est le pourcentage du SMIC, c'est-à-dire du salaire de base. En France, on a un salaire de base. Hein. Le SMIC, qui est à 1000 et quelques euros, hein, je crois, net. 1100 euros, c'est le salaire minimum. Si tu trouves un apprentissage, que tu as moins de 18 ans, la première année, tu toucheras 33% de 1100 euros. C'est-à-dire, en gros, tu vas toucher 350, 380 euros chaque mois pour apprendre le métier. La deuxième année, tu toucheras 43%. Et la troisième année, 55%, c'est-à-dire que tu toucheras en gros 600 euros. Mais pour apprendre le métier, bon, tu vas travailler, mais tu vas apprendre le métier. Si tu as de 18 à 21 ans, mais tu vois que les pourcentages augmentent, tu es plus payé. Et si tu as plus de 21 ans, ils augmentent encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas un niveau d'études important, je pense que c'est la meilleure solution pour apprendre un métier. Alors, il y a deux solutions. Hein. La première année, par exemple, si j'ai moins de 18 ans, je toucherai 341 euros. La deuxième année, 559 euros. Si j'ai 18 à 20 ans, je toucherai 559 euros. Si j'ai plus de 21 ans, je toucherai 723 euros. Donc, plus je suis âgé, Voilà. Et puis vous voyez que ça augmente de façon significative. Hein. Bon. Alors, je vous explique. Il y a deux choses. Vous avez deux éléments. Premièrement, vous avez l'apprentissage initial. D'accord ? C'est-à-dire trouver un patron, signer un contrat. Vous avez 3 ans de formation et à la fin, vous passez le diplôme professionnel. Alors, par l'apprentissage, on passe ou le CAP ou le brevet professionnel parce qu'on les a gardés pour les apprentis. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous pouvez trouver un travail en attendant, travailler pendant quelques années pour avoir de l'expérience. Et puis après, vous pouvez faire ce qu'on appelle une formation en alternance. Alors, l'alternance, c'est un système un peu comme l'apprentissage. Hein. Vous avez un patron, vous travaillez, par exemple, 15 jours, 2 semaines chez le patron, et vous allez 2 semaines en formation à l'école. D'accord ? Pour l'apprentissage, vous travaillez 3 semaines chez le patron, vous allez 1 semaine à l'école. Donc pendant 1 semaine, vous êtes écolier, vous êtes étudiant, et pendant 3 semaines, vous apprenez le boulot avec le patron. Bon, ça, c'est la meilleure façon pour apprendre un métier, et surtout, si vous choisissez bien votre métier. Alors les métiers où il y a du boulot aujourd'hui en France, les métiers que les Français ne veulent pas faire, parce que c'est les Français, ils veulent plus faire les boulots pénibles. Donc si vous êtes prêt à faire des boulots pénibles, vous aurez un métier, vous gagnerez bien votre vie. Ces boulots, c'est les métiers du bâtiment, tout ce qui est le bâtiment, maçon, carreleur, peintre, ferrailleur en bâtiment, en fait tous les métiers du bâtiment. Là, il y a du boulot. Les métiers de l'agriculture, je vous en ai parlé tout à l'heure, tous les métiers de l'agriculture, il y a du boulot parce que les Français, ils savent plus ce que c'est que la campagne. Donc là, il y a du boulot pour l'agriculture. Et puis après, vous avez certains métiers, comme la plomberie, pour réparer les robinets, les tuyaux, la plomberie, tout ce qui est plomberie. Alors ça, c'est un métier où il y a beaucoup de travail. Voilà, bon, mais ça, c'est un métier où, pour l'apprentissage, c'est très bon. Parce que si tu trouves un patron plombier qui te prend, tu fais tes 3 ans, et après, tu as un métier en or. Parce que plombier, c'est un très bon métier. Il y a aussi les électriciens. Ça, l'électricité, avec les constructions de maisons, etc. et tout, bon, c'est un très bon métier. Ça s'apprend surtout avec un électricien. Qu'est-ce que c'est qu'il y a aussi ? Plomberie, électricité. Alors, tout ce qui est les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. C'est-à-dire tous les métiers pour travailler dans la restauration et l'hôtellerie. Là, si vous voulez apprendre le métier, la seule différence, là, ce métier, la particularité, c'est que tu as des horaires de travail qui sont très... c'est pas des horaires de travail normales. Tu n'embauches pas à 8h le matin, tu débauches pas à 17h. Tu travailles le soir très tard. Bon, voilà. Mais la restauration, l'hôtellerie, il y a énormément de travail. Là, vous pouvez apprendre un métier. Le métier de serveur, le métier de commis de cuisine, bon voilà, vous pouvez apprendre ça. Et là, on peut travailler par l'apprentissage. Donc ça me paraît important que vous connaissiez cette possibilité, parce que quand tu fais l'apprentissage, si tu tombes sur un patron qui a envie de t'apprendre le métier, il ne va pas forcément te demander si tu as un diplôme ou si tu as quelque chose, il faut que tu aies envie. Et puis après, si tu apprends le métier, tu vas apprendre à écrire ce qu'il faut pour le métier, tu vas apprendre à, forcément. Donc l'apprentissage, ça me paraît la meilleure solution. Alors, peinture en bâtiment, tu as la peinture en bâtiment et puis tu as la peinture décoration intérieure. Donc ça, les métiers de la peinture, oui, beaucoup. Et la peinture, c'est assez facile de trouver du travail. C'est assez facile parce que c'est un métier difficile, hein, c'est un métier physique. Donc tous les métiers physiques, c'est bon. Alors tout ce qui est service à la personne, oui, aussi. Si vous aimez vous occuper des gens qui sont handicapés ou qui sont ou les personnes âgées, là, il y a beaucoup de travail dans les services à la personne aussi. Alors ça peut être aussi bien leur porter à manger, les aider ou entretenir les jardins ou voilà, tout ce qui est espace vert et voilà, espace vert, jardin, voilà. Ça c'est très important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de travail. Voilà, c'est les personnes âgées et les handicapés, hein. Et là il y a beaucoup de travail, ouais. Faut les lever, et les femmes ne peuvent pas le faire, il faut 2 femmes pour le faire. Et ça c'est un job intéressant. Alors cette formation, à la fin tu as un diplôme, oui. Si tu fais un apprentissage. Tu sais, comme tu me disais, bon, en Afrique, par exemple, si tu apprends le métier, tu n'as pas le diplôme. Mais tu apprends. En France, si tu fais un contrat, tu signes un papier, tu fais un contrat d'apprentissage avec un patron, si tu fais ton travail, si toi tu fais ton travail, c'est-à-dire si tu vas à l'école régulièrement, tu fais le travail, au bout de 3 ans, tu passes le diplôme, tu as une épreuve, tu passes le diplôme, c'est une épreuve professionnelle, tu as une petite épreuve écrite, mais comme tu vas à l'école, eh bien, tu vas apprendre à écrire. Hein. Et après, tu as ton certificat d'aptitude professionnelle, tu as ton CAP, tu as un diplôme. Un diplôme professionnel. Et après, tu peux travailler. Et après, tu peux continuer dans ton travail à te former après, plus tard. Tu vois, une fois que tu as ce premier diplôme, oui, tu as un diplôme. L'apprentissage donne un diplôme. Et comme l'apprentissage, tu as travaillé pendant 3 ans, quand tu cherches un travail, tu trouves plus facilement un travail, toi, quand tu as été apprenti, que si c'est quelqu'un qui sort de l'école. Parce que celui qui sort de l'école, il n'a jamais travaillé en réel. Donc c'est la formation apprentissage, c'est vraiment une bonne formation. Il vaut mieux avoir un bon diplôme et une expérience, tu vois, si tu as travaillé 3 ans apprenti avec quelqu'un, mais tu as de l'expérience. Donc tu trouves plus facilement du travail. Il faut le faire, il faut signer le contrat avant 18 ans. C'est plus intéressant pour eux. Donc, mais ça, c'est une bonne formation. Hein. Voilà. Alors, je termine, et puis après, si vous avez des questions. Hein, donc, si après, vous voulez, quand vous serez plus vieux, si vous voulez continuer, vous avez un organisme qui a été monté exprès par le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est un organisme public, qui s'appelle le GRETA, et qui est chargé de donner une formation tout au long de la vie. Vous avez vu la formation professionnelle tout au long de la vie, eh bien vous pourrez suivre une formation après, c'est-à-dire que si vous avez appris un métier et puis que vous vous rendez compte au bout de 20 ans que vous ne pouvez plus le faire, par exemple des métiers fatigants. Hein, vous avez le dos, à un moment donné, les carreleurs, par exemple, les choses comme ça, ils ont mal au genou, ils ont mal au dos. Eh bien, au bout de 20 ans, vous pouvez décider de faire un autre métier et d'apprendre un autre métier. Et là, vous passez par une formation comme ça. Il y a aussi des formations qui sont données en France avec des stages en passant par Pôle emploi. Et à ce moment-là, vous apprenez un nouveau métier. Et là, en général, si vous avez travaillé pendant 15 ou 20 ans comme ça, la formation, elle est payée. C'est-à-dire que vous êtes payé pour apprendre un nouveau métier. Bon, c'est quand même pas mal.
Merci d'avoir écouté cette émission sur Ode Radio, une émission réalisée dans le cadre du projet Onde d'intégration, cofinancé par le Fonds européen d'intégration. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site internet www.oderadio.net, onglet FEI.